Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Incroyable. J'espère que ton stream va réchauffer mon appart, moins 28 à Montréal. Wow. Moins 28. Mais c'est légal ça? Terrible. Bon courage. Vous allez bien? Tout se passe bien pour vous? J'étais dans le public hier, super émission. Ah, merci à toi Snowfell, c'était cool de te rencontrer. Toujours très cool de vous rencontrer. Non, puis en plus, les gens dans le public qui me disent que l'expérience utilisateur, l'expérience client est tout à fait positive. Donc c'est cool. Là, on a fait des réglages hein, pour que le public il entende bien le son, pour que tout se passe bien, qu'il ait des trucs qui s'affichent et tout. Donc très bien. Je suis très content. T'es en 4G? Ouais, je suis en 4G. Panne d'internet dans mon quartier. Ce matin, j'étais accroupi devant ma box en train d'essayer de comprendre pourquoi il n'y avait plus Internet. Et j'ai reçu un texto de mon opérateur qui m'a dit ouais, il y a une panne de secteur, on est dessus. Et on le répare d'ici lundi. Et plus tard dans la journée, j'ai reçu un autre texto qui m'a dit bon, on galère à réparer la panne. A priori, on ne réparera pas avant mercredi soir. Du coup. Relou. Du coup, relou. Du coup, relou parce que lundi, il y a la discussion générale sur la réforme des retraites que j'avais bien l'intention de streamer, quoi. Donc, j'ai sorti le petit boîtier 4G qui va bien. Je teste. Je teste le boîtier 4G. On va voir. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je trouve en urgence un setup de stream que quelqu'un me prête. Voilà. Il faut demander une box temporaire. Ah non, il n'y a pas de problème de box. Hein. Non, non, il n'y a pas de problème de box. C'est le réseau du quartier qui a un problème. Donc on peut me filer toutes les box du monde. Moi, il n'y a rien à faire. Il faut attendre que les gars interviennent sur le réseau. Voilà. Boîtier 4G illimité. Je ne sais pas si c'est illimité, j'espère. J'espère que c'est illimité. Mais j'ai l'offre pro Orange, donc normalement, ouais, il devrait. Enfin, c'est la solution de backup, machin, non? Pour l'instant, c'est stable le stream. Bah, vous me dites hein, si ça commence à bugger. Si je raconte de la merde, par contre, ça, c'est pas lié au réseau. Hein, c'est au niveau du cerveau. Mais si ça bug, vous me le dites. Tant mieux si ça marche. Panne d'internet à Paris, c'est plutôt rare. Ouais, c'est plutôt rare, ouais. Bah bon, ça peut arriver, hein. Un accident de la route, n'importe quoi. Enfin voilà, ça peut faire péter un boîtier. Et voilà. Hoodie backseat bien reçu, Cimer. Ah, t'as vu? T'as vu comment il marche bien le hoodie backseat? Il te fait des pectoraux et des abdos absolument incroyables. Tu peux demander à Orange de te fournir en urgence une box 4G à leurs frais. Non, mais c'est bon, j'en ai déjà une. Non, non, c'est bon. J'ai utilisé le boîtier Orange 4G qui m'ont livré. Voilà. Rassurez-moi, l'opérateur offre la 4G pendant leur panne. Ouais, le texto me disait, vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser la 4G, machin, machin. Ceux qui soutiennent Backseat ont un stream plus stable. Ouais, ça s'est prouvé aussi. J'ai pris le hoodie moi aussi, j'ai pécho trois top modèles depuis, merci Jean. Mais de rien, de rien. Ça c'est l'effet hoodie backseat. Hein. Ça marche aussi avec le t-shirt. Ça permet de pécho, ouais. Ouais. Ou un sous-traitant qui fout le bordel dans les armoires fibres. Bah, pour qu'il m'envoie un texto pour me dire qu'il y a un problème local de secteur, je pense que c'est pas juste un boîtier, une armoire fibre. Je pense que c'est pas mon immeuble. Bah alors, cher Jean Massier, on se laisse avoir par la com honteuse et cynique d'Edouard Philippe qui met en scène sa maladie. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris de tweeter un truc non négatif? Ouais, il y a Édouard Philippe qui a fait une interview sur BFM TV où il rend public son alopécie, donc qui est la maladie qui lui fait perdre sa pilosité. Donc ses sourcils, c'est ça le plus visible, ses cheveux, sa barbe un petit peu aussi. Et voilà. Et moi j'ai tweeté en disant bah, C'est bien que les personnalités politiques participent à normaliser le fait de parler de ses conditions, de sa condition de santé. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oh, je me suis fait engueuler, hein. Comment on se procure un hoodie Baxit? Ah, rien de plus simple. C'est une excellente question. Je vous remercie de me la poser. Regarde, je vais te montrer. Tu vas sur utip.io, utip.io slash Jean Massier. Hop, tu arrives sur cette page magnifique. Tu cliques sur Shop. Là, tu prends ta place pour venir dans le public de Baxit, à l'émission qui te convient le mieux, le 23 février, le 16 février, le 2 mars, le 9 février. Et ensuite, tu cliques sur le hoodie. Là, tu regardes le prix, tu dis, oh là là, c'est cher pour un hoodie. Mais après, tu te souviens que, ah mais non, c'est pas un hoodie que j'achète. C'est un soutien à l'émission Baxit d'un montant de 30 euros, en échange duquel je reçois un magnifique hoodie à la maison pour montrer au monde mon soutien à Baxit. Après, tu choisis la couleur que tu veux. Voilà. Après, tu choisis ta taille. Tu choisis le nombre que tu achètes. Alors, si tu as des frères et sœurs, t'en prends 9, quoi. Normal. Puis bon, on va pas avoir qu'un seul hoodie, tu vois, c'est débile. Tu ajoutes au panier, etc. Machin. Est-ce que tu ajoutes un type? Ah non. Ah, taille, non, faut choisir la taille. Voilà. Donc voilà. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est possible de regarder le replay de Baxit quelque part? Oui, dans les vidéos. Dans les replays de ma chaîne Twitch. Si tu es abonné à ma chaîne, tu as accès sans publicité et sans restriction à l'ensemble des replays des derniers mois de ma chaîne. J'habite à La Réunion, ça va être compliqué de venir dans le public. Ah, ça risque d'être un peu tendu, je te l'accorde. Ah, mais faut être abo. Oui, mais c'est très simple. Avec une simple carte de crédit, et en quelques clics seulement, ça résout le problème. Ou alors, avec ton compte Amazon Prime, si tu en as un, ou si un proche de ta famille en a un. Salut Jean, je t'ai trouvé très mal à l'aise face au syndicaliste boulanger lors du Bifor, je me trompe? Ah non, pas du tout. Non, j'étais vachement content du Bifor hier. Bifor avec les boulangers. J'étais très content du Bifor. C'était cool de les recevoir sur le plateau. Et ouais, c'était sympa. Et en plus, et du coup, on avait des boulangers vachement différents les uns des autres, quoi. Voilà, regarde la belle personne qui vient d'acheter une place. Hâte de te rencontrer et de boire une bière avec toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'était cool. C'était cool. On avait la caricature du. Enfin, c'est gentil dans ma bouche, hein, mais la caricature de l'artisan syndicaliste qui défend l'artisanat avec son côté grande gueule, la gouaille, qui défend son métier, quoi. Et qui gueule sur le nucléaire et tout, mais très bien, pas de problème. On avait l'artisan meilleur ouvrier de France, meilleure baguette de Paris, hyper réservé. Et évidemment, le mec, il est artisan boulanger. Je me doute qu'une caméra, un micro, c'est hyper impressionnant. Il n'était pas à l'aise. Et voilà, mais il était très content d'être là et tout. Et on avait la jeune boulangère qui a repris la boulangerie familiale à la fin de ses études. La nouvelle génération. Et donc c'était hyper intéressant. Et on avait Boulangerie RSCP Respect de la chaîne Twitch qui était avec nous aussi. Et donc c'était cool. Et non, non, j'étais pas mal à l'aise du fait qu'il parle du nucléaire. C'est juste qu'en fait, on était arrivé à la fin du Bifor. Moi, j'avais plus trop de temps là. Et le mec, il lâche une bombe en disant, ouais, moi, je voudrais parler du nucléaire. Il était en mode, alors en fait, ouais. Mais non. Enfin, si, c'est intéressant. Le sujet est très intéressant, évidemment, et c'est bien ça montre la réalité du truc d'où vient l'électricité et tout. On peut pas séparer la question énergétique de la question de sa production, donc très bien, de la production d'électricité. Mais là, nous, on voulait surtout parler des boulangers, quoi. Bon, nucléaire, c'est. Voilà. Donc moi, j'étais en mode, ouais, alors, je te réinviterai, on en reparlera, mais là, on arrive à la fin, quoi. Je viens à l'instant de finir le replay, ça tombe bien. Ah, comme le monde est bien fait. Je sais pas si ça s'est vu en live, mais dans le public, on a vu les trois faire la tronche quand le streamer boulanger a parlé de changer la façon de travailler. Mais oui, non, mais bien sûr, mais en même temps, c'est intéressant, tu vois, c'est la preuve que les boulangers eux-mêmes, ils ont pas tous la même manière de bosser et qu'ils ont pas tous le même rapport au métier. Donc effectivement, le mec qui t'explique qu'il fait son pétrin à la main, qu'il a pas de pét... on appelle ça un pétrin mécanique, pétrin électrique, je sais pas. Bah, en fait, il travaille différemment. Il travaille différemment des autres qui ont des pétrins électriques, des fours électriques, etc. Donc voilà. Mais c'est normal, je veux dire, il y a des débats. Quand lui il dit bah faut réinterroger le métier, la manière de travailler, moins dépendre de l'électricité, c'est pas inintéressant. Mais il faut comprendre que ça provoque des réactions chez les autres qui sont en mode écoute, t'es gentil mon gros, mais toi si tu vends une centaine de pains par jour, nous on fait des baguettes, on en fait des milliers parce qu'on est une gros, enfin, on est une boulangerie de quartier dans laquelle il y a beaucoup de clients. Enfin, tu vois, je peux comprendre que en mode ouais, bon. Donc c'est intéressant, tu vois, c'est. Ils sont pas tous d'accord sur tout. C'est une réalité valable pour l'ensemble de la société. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le nucléaire va nous tuer un jour, c'est pas écolo, donc tout miser sur l'hydrolienne et l'éolien. Bah, le jour où tu m'expliqueras comment tu fais accepter aux gens des champs d'éoliennes. Démocratiquement, parce que je suppose que tu es un démocrate. Let's go. Tu as calculé le coût que revient de la baguette à la maison, versus moyenne en boulangerie? Hein? Le coût de revient baguette à la maison versus moyenne en boulangerie. J'en sais rien. Qui fait des baguettes à la maison? On a tous arrêté après le confinement de faire son pain soi-même. On a parlé il y a quelques semaines. J'ai parlé de ça? Je raconte vraiment des conneries, hein, faut pas écouter quand je parle. Hein. Ah, je suis content. Ah, il y a un débat sur le nucléaire dans mon chat. Ah, ça fait longtemps. Non, venez, on s'en branle. Donc voilà, donc moi j'étais content qu'on fasse un bifor avec les artisans boulangers, j'étais content qu'ils acceptent de venir. En plus, enfin, ils étaient vraiment, c'est vraiment sympa de leur part d'être venus parce qu'ils connaissent pas Backseat, ils connaissent pas Twitch. Enfin, ils étaient en mode, je comprends pas, on est où en fait? Mais vous êtes qui? Et ils étaient super sympas. En plus, il est venu avec ses baguettes, Damien, le boulanger qui a la meilleure baguette de Paris. Il est venu avec ses baguettes tradition qui étaient super bonnes. C'est con, vous auriez dû venir dans le public, vous auriez mangé du pain de la meilleure baguette de Paris, la même baguette que celle que mange Macron tous les jours. Fallait venir, fallait venir. N'hésitez pas à aller sur le YouTube de Backseat. Pour venir dans l'émission à la date qui vous convient. Elles avaient l'air super bonnes, elles étaient très bonnes. Non, je vais pas le dire, c'est méchant. Je balance pas, mais Manès, il m'a dit ouais, pas ouf la baguette. Je suis méchant. Je suis méchant. Je lui ai répondu un truc du genre, qu'est-ce que t'en sais, yo, t'es 15 ans, tu vas pas lui donner des leçons de boulangerie, non? Ah, c'est gosse, hein, vraiment. Non, je déconne. Préviens-nous quand t'invites des représentants du monde viticole et des charcutiers fromagers. Oh le connard. Il a vraiment le goût de la punchline. Un artisan raclettier, ça existe? Oh, ce serait tellement bien. Le prix des places, c'est abusé. Oh non, c'est pas abusé. Non, c'est pas abusé. Je suis désolé, c'est pas abusé. Pour la qualité du service, du spectacle. De l'alcool et de la bouffe. 50 balles pour une soirée, tout compris à Paris. De toute façon, les jeunes, ils respectent plus rien, ils veulent plus travailler. Bah, ils veulent plus travailler. On leur propose gentiment de bosser jusqu'à 64 ans, ils veulent pas. Qu'est-ce que je te dise? Par contre, il m'a impressionné de ouf, Nadel. Manès Nadel, ouais. Est-ce que Chloé reviendra? Bah, j'espère. J'espère. J'étais très content que Chloé Riedel accepte de se prêter au jeu. C'était une première pour elle. Et ça lui a plu de ce qu'elle m'en a dit, donc je suis content. Elle a adoré le quiz à la con. Elle a bien raison. Merci Max d'ailleurs pour le quiz. Il était trop bien. Mais. Elle passe régulièrement sur France Info. C'est possible. C'est possible. Mais ouais, non, c'était le line-up était cool hier parce que Chloé Riedel, Claire et Malek. Je suis trop content que Malek soit revenu. Malek, le meilleur bro, trop sympa. Non, c'était vraiment chouette. Je suis très content. Malek aussi, qui était trop content de venir, qui m'a dit qu'il reviendrait avec plaisir et tout. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Qui n'aime pas le quiz à la con? Ah, il y en a, hein. Il y a la team premier degré qui m'engueule à chaque émission, hein. Merci à l'illustre inconnu qui a pris sa place pour venir la semaine prochaine. Ah non, moi je me fais engueuler. Enfin, de toute façon, c'est normal. Je me fais engueuler par tout le monde pour tout, mais il y a la team premier degré qui me dit le quiz à la con, c'est un scandale. Une émission politique se doit de faire preuve de sérieux. On parle de sujets graves. On n'est pas là pour rigoler. Le rire, c'est la preuve d'un détachement coupable. Moi, je veux 2 heures d'émission sans pause avec un mec qui parle en flux continu sur des thèses universitaires très compliquées. Et à l'inverse, il y a ceux qui me disent. Ouais, enfin, t'es gentil, Jean, mais enfin bon, je veux dire, les politiques, là, vous parlez retraite, vous parlez de sujets chiants et tout, vous voulez pas juste faire des blagues tout le temps, c'est vachement mieux. Bon, bah voilà. Donc voilà. Donc c'est. Voilà. Mais à chaque émission, j'ai le droit. Mais c'est normal, c'est normal. Merci, Jambon de Pays, pour ton sub. Merci. Et la majorité silencieuse juste qui apprécie. Ah oui, non, mais 95% des gens ne commandent pas. Donc non, l'écrasante majorité adore l'émission et ça se passe très bien et j'en suis très content, mais ceux qui sont pas contents le disent bruyamment. Et ils ont raison, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Très bien. J'ai vraiment du mal à me situer la partie PowerPoint. Est-ce que c'est une chronique humoristique ou pas? Bah, je sais pas, tu ressens le besoin de te situer absolument sur ce sujet? Je sais pas, si t'apprends des trucs, c'est cool. Si en plus ça te fait rire, c'est mieux. Mais si t'as fait pas rire et que t'as quand même appris des cools, c'est cool quand même. Non, je sais pas. Bah ouais, c'est didactique, on apprend des trucs. Enfin, non, je sais pas, il y a absolument besoin de ce soit drôle. Moi, j'aime bien Vincent, c'est un journaliste de très très grand talent. J'aime bien ce qu'il fait, ses chroniques sont intéressantes. Ses PowerPoints sont un peu marrants. Non, oui, non. Il n'y a pas besoin de définir, si. Perso, j'aime beaucoup Claire, je la trouve hyper pertinente, c'est ma nouvelle préférée. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Claire. Hyper didactique, hyper intéressante. Elle a une analyse, elle a un recul critique sur l'actualité politique qui est extrêmement intéressant. Enfin, c'est vraiment, moi, je la trouve vraiment très très chouette, Claire. J'aime beaucoup ses chroniques. Très très content qu'elle nous ait rejoints. Courage pour sa thèse. À chaque fois que À chaque fois que je demande à la fin de l'émission quoi de prévu pour les prochains jours d'ici la prochaine émission, et Claire qui dit, ah bah moi toujours dans ma thèse. Hein. C'était marrant hier quand elle a dit ouais bah toujours dans ma thèse, bon pour me changer les idées je vais manifester, ça va me faire du bien. Mais si le reste du temps je reste enfermé à la bibliothèque. Hein. Non mais en vrai courage à elle, hein. Faire une thèse en théorie politique c'est... C'est chaud! Elle a du courage. Mais la science a bien de la chance de pouvoir compter sur des gens comme Claire. La science, la vraie. Et donc voilà, et donc Chloé Ridel aussi, c'était chouette de la voir, c'était intéressant. Elle aussi, elle a la haussa turbine, et c'était effectivement des choses hyper intéressantes à dire. Malek, le sens de la formule. On a rigolé à la fin, parce que je sais pas, la dernière question qu'il a posée à la députée Panosian-Bouvet, c'était est-ce que oui ou non, est-ce que vous êtes de gauche ou de droite ou un truc comme ça? Et. Et il m'a dit, t'as vu, je t'ai fait une séquence clippable. Je lui dis, ouais, j'ai remarqué. Il m'a dit, ah, tu me connais, genre, j'ai été formé à la séquence, hein. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il vient de Balance ton poste, Malek. Donc, il vient d'une émission dans laquelle on apprend aux chroniqueurs à penser séquence. Il faut que ce soit clippable, il faut que ce soit tweetable, il faut que ce. Hein, voilà, moins d'une minute 20. Il faut que la vidéo, elle parte sur Twitter. Donc. Donc Malek qui me fait voilà, ah, j'ai été formé comme ça, hein, je t'en fais des séquences quand tu veux. Merci Malek, t'es le meilleur. Et c'est vrai qu'il pense vraiment en séquence quoi, il est trop marrant. À cause du direct, t'as pas peur qu'un jour il y ait un happening de la part des spectateurs du public? Non. Non, je vous connais, hein. Vous venez boire des bières. Vous subissez 3 heures d'émission qui vous fait un peu chier, et vous attendez qu'une seule chose, c'est le buffet après. Malek, il pense aux séquences clippables d'une minute 20, les autres posent des questions qui durent une minute 20. Oui, c'est ça. C'est clair, sur les premières émissions, je lui ai dit, les questions claires. Essaye de synthétiser ta pensée et de poser une seule question. Il dit, oui, t'as raison, putain, à chaque fois, je pose trois questions. Oui. Mais ça, c'est alors ça, c'est typiquement un truc d'universitaire. C'est vraiment les universitaires, quand ils font des colloques, quand ils font des conférences et tout, ils posent quatre questions en une. Ne pourrait-on pas dire... Ce qui, auquel cas, impliquerait une réflexion nécessaire sur et insidieusement questionner la réalité de. Claire, essaye de. Tu peux prendre tout le temps que tu veux pour expliquer et arriver à ta question, mais essaye de finir sur une question avec un point d'interrogation à la fin. Mais les questions de Claire étaient passionnantes. Ah oui, non, 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 mais bien sûr, non, non, c'est super intéressant, évidemment. Les questions commencent par une remarque préliminaire plus qu'une question. Mais très bien. Oui, c'est ça, oui. Dans les colloques d'universitaires, avant de poser une question, je voudrais faire une remarque liminaire. Rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui m'a fait penser à. Et là, le mec, il part dans un tunnel. Et à la fin, et donc ma question, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, c'est les gens qui prennent le micro dans la salle, non pas pour poser une question, mais pour se faire remarquer. C'est très chiant, ça énerve tout le monde. Le tunnel sous la Manche, ouais. T'as pas peur des questions partisanes? Bah, ça dépend. Non, je m'en fous qu'une question soit partisane ou pas. Ça c'est peu importe en réalité. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit compréhensible en fait. c'est qu'elle amène à une réflexion, c'est qu'elle amène à un propos, à une réponse. C'est ça qui m'intéresse. Une question est partisane ou pas partisane, je m'en fous pas mal. Par contre, si on tourne en rond et que ça devient un débat entre un chroniqueur et un invité, c'est plus intéressant. Enfin, c'est bon, on a entendu l'invité, on a compris que. Parfois, on a compris qu'il voulait pas répondre ou qu'il savait pas répondre. Bon, bah, dont acte, hein. C'est ce que je dis toujours, hein. On est responsable de nos questions, on n'est pas responsable des réponses qui nous sont apportées, hein. Par contre, j'ai pas trop compris ton point de désaccord avec Astrid Panosian sur la question de la conversion de genre. Non, j'avais pas de d'opposition avec elle. Je voulais l'interroger sur la pertinence du choix de sa question au gouvernement de mardi. En plus, ça tombe bien, elle a posé une question mardi. On était en direct sur Twitch jeudi. Il y a un côté follow-up du meilleur effet pour les abonnés de ma chaîne. Vous voyez des députés le mardi dans l'hémicycle et le jeudi sur mon plateau. Je suis content. Et du coup, c'est l'occasion de faire un retour sur sa question de mardi. Et donc, je lui ai posé la question sur, effectivement, la question de la transition de genre. Non pas parce que c'était le fond du sujet, c'était pas ce qui m'intéressait le plus, c'était le pourquoi du comment de la pertinence de ce sujet-là, de cette question au gouvernement. C'est quand même, enfin, je veux dire, la dissolution du conseil scientifique de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est vraiment pas important comme sujet. On s'en branle. Mais le fait qu'elle choisisse d'en faire un sujet de question au gouvernement, c'est le preuve que elle y accorde une importance énorme. Et c'est là-dessus que je voulais discuter, tu vois. C'est la cross-promotion des QSG. Ouais, c'est ça. Pour elle, peut-être. Oui, voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais lui poser la question. Qu'elle nous explique. Qu'elle nous explique ça. Et puis bah voilà, elle a répondu, hein. Toujours pareil. Que la réponse vous satisfasse ou pas, c'est pas le sujet, hein, je vous rappelle. Elle a répondu qu'elle voulait défendre les libertés académiques parce qu'elle a une inquiétude autour de la possibilité pour les chercheurs de travailler et d'avoir des débats entre chercheurs sur ce sujet. Bon, bah, écoute, dont acte. On sera peut-être pas d'accord, mais c'est pas grave. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un chroniqueur qui soit particulièrement à l'aise sur les questions industrielles, commerce international. Bah, si on aborde le sujet, oui, je suis d'accord avec toi, mais enfin bon. Pour parler de la retraite. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. Oui, il n'y a pas de débat et il n'y a même pas d'intérêt. Enfin, moi, je vous l'ai toujours dit. Hein, Ça m'intéresse absolument pas de faire une émission avec que des gens d'accord autour de la table. Alors franchement, me ferait vraiment chier de mettre autant de temps et d'énergie et de vous demander des dons pour une émission où tout le monde est d'accord et à la fin tout le monde fait ouais, on a trop raison d'avoir raison, ouais. Lourdingue. À quand Dupond-Moretti dans Baxit? Bah je sais pas, à quand Dupond-Moretti dans Baxit, faudrait qu'il y ait une actualité particulièrement intéressante qui justifie de l'inviter. Sa réforme de la justice, elle a eu lieu l'année dernière, je crois. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé du passage de Nadel? Qu'est-ce que j'en ai passé? Moi, j'ai trouvé ça bien. Enfin, on avait des questions intéressantes à lui poser sur le mouvement, etc. Après, là, pareil, on a eu des réponses typiques. Merci, Tim, pour ton abonnement. On a eu des réponses typiques de syndicalistes. Mais c'est normal. Enfin, un syndicaliste, il va pas te dire autre chose que. que ce qu'il pense être les bonnes raisons de la mobilisation. Évidemment, il va t'expliquer que la mobilisation, elle est énorme, elle est phénoménale. Quand je lui ai posé la question, dis donc, les jeunes ne se mobilisent pas des masses dans ce mouvement, pas plus que ça. Je m'attendais pas à ce qu'il me réponde, ouais, c'est vrai, on peut avoir un regard critique sur la mobilisation de la jeunesse. Non, évidemment, le mec, il est syndicaliste, c'est un jeune mobilisé, il va pas me dire ça, il va me dire, ah non, non, je suis pas d'accord, on était méga nombreux et on va être de plus en plus nombreux et tout. Coucou Jean, oublie pas de raid Dave Diff après ton live. Oh, l'autre là, il réclame des raids. Salut, tu vas bien? Et donc voilà, donc très bien. Manès Nadel, je suis content déjà qu'il ait accepté de venir sur le plateau de Backseat parce que j'ai appris qu'il avait refusé d'aller sur des plateaux à la télé qui voulaient tous la voir et tout. C'est un peu la nouvelle Coqueluche ou la nouvelle bête de foire. Donc c'est chouette qu'il soit venu sur le plateau de Backseat pour s'exprimer. Après, ce qu'il a dit était attendu. Très attendu. Mais par contre, ce qui est aussi intéressant, et c'est le sujet qu'on a abordé avec lui, c'est justement le côté phénomène médiatique. Oh tiens, un jeune de 15 ans qui s'exprime vachement bien dans un micro sur un mouvement de grève. Ça tranche avec l'image des jeunes écervelés, un peu débiles, qui savent pas trop pourquoi ils bloquent leur lycée, qui sont complètement cons, qui font ça pour sécher les cours, etc. Hello, je t'ai connu grâce à l'équipe du lundi, dont je ne fais pas partie, mais donc ok, super. Non, et justement, moi, ce qui m'a intéressé aussi, et je trouve ça bien, c'est qu'il y a une espèce de Manès mania. D'ailleurs, ça s'est vu dans le chat, hein. Il y avait les gens de gauche du chat qui, évidemment, étaient en pamoison devant Manès en disant « Ah, génial, ah, super, ah, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est formidable, qu'est-ce qu'il parle bien », ce qui est intéressant. Et moi, je me suis dit « Mais tiens, ça me questionne, parce que ça veut, de quoi cette mania est-elle le nom? Qu'est-ce qui, c'est quoi, c'est la capacité d'éloquence? Mais comment est-ce qu'on juge la capacité d'éloquence d'un jeune de 15 ans ?» Parce que on peut aussi dire qu'il a une manière de s'exprimer qui est terriblement classique. Et ouais, bon, ça veut dire, il parle comment? Il parle comme un vrai quoi? Comme un vrai politique, bien fort. Enfin, il y a une espèce de formatage du langage politique qui moi m'interroge quoi. Parce qu'il m'avait semblé que c'est plutôt un truc qu'on critiquait, ça. Ce formatage des élites qui sont toujours les mêmes, qui parlent toujours de la même manière, l'espèce de moule qui te fabrique du gauchiste bien peigné qui vient sur les plateaux balancer des punchs, etc. Tu vois? Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique laisse pas sa place à des gens qui s'expriment moins bien? Des jeunes issus de quartier, des jeunes ruraux, des... Enfin, c'est... Si t'avais un vrai moule, comme tu dis, tu serais pas là. Ah ben moi je suis la caricature du moule, hein. Moi je suis la caricature de l'étudiant Sorbonnard... Qui a bien tout appris ses leçons, etc. Alors franchement, moi je suis pire que Manès, hein. À son âge, j'étais comme lui, hein. Disons que pour être écouté, il faut être audible. Bah ouais, mais est-ce qu'on n'a pas une oreille sélective? Oui, c'est pour ça qu'on a des difficultés à voir dans l'hémicycle des personnes qui ont un profil différent. Caroline Fiat, Rachel Keke, etc., qui s'expriment différemment. Honnêtement, Manès, c'est l'archétype du science-piste. Oui, c'est un jeune talentueux du lycée Buffon à Paris qui s'exprime bien. Partant de là, effectivement, il a l'air d'être passionné par la chose politique, donc il a une voie toute tracée pour aller vers Sciences Po et devenir un cadre classique de la gauche. Bon. Et bah du coup, moi ça m'interpelle, tu vois. Moi je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une réflexion qu'il faudrait qu'on ait un peu tous en se disant, tiens, mais comment est-ce que ça se fait qu'il y en ait plein qui tombent en pamoison devant ce jeune de 15 ans qui parle comme un vieux? Après, pas la peine de faire de l'étude bashing non plus. Non, c'est sûr. Non, c'est pas les études que je bâche, c'est je critique le moule qui fabrique des hommes et des femmes politiques qui se ressemblent tous et toutes. C'est tout. Et oui, c'est vrai que Sciences Po LENA, c'est un peu la caricature, faut le reconnaître. Mais après, il y a des gens très bien qui ont fait Sciences Po LENA et je vous déconseille pas de faire Sciences Po LENA. Il est jeune, donc ça impressionne. Bah ouais. Non, non, mais c'est bon, voilà, moi c'est une réflexion que je vous livre. Mais effectivement, je suis le premier à trouver qu'il parle très bien. Mais encore une fois, il parle très bien dans son genre. Dans la défense d'un mouvement de contestation d'une réforme, avec les arguments qu'on connaît, etc. Voilà, c'est pas non plus l'exercice le plus difficile d'éloquence, hein. Mais c'est pas grave. Comment il s'exprime sur un sujet qu'il maîtrise un peu moins bien, comment il s'exprime, je sais pas. Je sais pas, je l'ai jamais entendu en tribune, par exemple. Je ne l'ai entendu qu'en micro tendu, BFM TV, en face cam avec. Merci Paul, qui a acheté 3 places pour le 16 février. Mais dis donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup Paul. Je l'ai entendu en micro tendu, je l'ai entendu en face cam dans l'Humanité et je l'ai entendu en plateau sur Bexit. Voilà. Bah, très bien, c'est 3 exercices maîtrisés, bravo. Salut tout le monde, le stream est calé en 4G, ça va. Ouais, en vrai, ça va, chafaud, hein. Moi, je trouve ça va. On n'aime pas les politiques trop formatées, mais les voir avec un autre nous tue. Ouais. Ouais. J'ai raté cette partie, le jeune a sorti le discours type NUPES où il a été original. Je sais pas ce que c'est le discours type NUPES, parce que la NUPES, c'est la gauche plurielle, il y a plusieurs gauches dedans. Non, il a sorti les arguments classiques de contestation de la réforme des retraites, non pas que je lui demandais d'être original. Hein. Je m'attendais pas de sa part à avancer davantage d'arguments que ceux qu'on connaît déjà, c'est pas grave. Non, j'attendais pas de sa part d'être original sur le fond, hein. Mais voilà. Mais il était très bon, très très bon. C'est lui qui parlait le mieux sur le plateau sans vouloir être désagréable. Tant mieux. Je m'en fous. C'est pour savoir s'il y a des arguments nouveaux. Non. Non, non. Par contre, quand il t'a répondu, tu peux m'appeler camarade, ça m'a achevé. Ouais, il l'avait préparé celle-là. Hein. Je lui avais dit, hors plateau, je lui avais dit que la première question que je lui poserais, ce serait est-ce qu'on se tutoie ou on se vouvoie? Et je lui ai dit sincèrement, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Et c'est pour ça que je veux commencer l'interview par cette question, c'est parce qu'en fait, je sais pas. Il m'avait dit, ah bon, d'accord, ok. Donc il avait préparé sa punch dans sa tête. Il arrive sur le plateau, je lui pose la question, il me fait, oh, tu peux m'appeler camarade. Ah, il est bon, l'enfoiré, il est bon. Très bonne réponse. Ça s'appelle ne pas répondre à la question et esquiver, hein. Mais bon. En tant qu'enseignant, j'ai été très touché par sa défense de l'école émancipatrice. Ouais. Là encore, hein. Ah, je vais faire mon vieux con 2 minutes, mais moi j'étais au lycée dans les années 2000. Je me souviens très bien des discours syndicaux qu'on avait, c'était exactement les mêmes. Hein. Ça n'a pas changé d'un iota. C'est très bien, hein. Il n'y a pas besoin que ça change. Vu que l'école est attaquée depuis tellement longtemps. Donc voilà, oui. Un service public de l'éducation qui émancipe et ne fabrique pas que de la chair à marché du travail. Non, non, mais c'est, voilà, je connais encore les arguments. Merci, Rémi Malayam. Ben, en même temps, la conviction n'a pas changé, donc. J'aime bien les gens qui critiquent un jeune de 15 ans. Oh, ça va, on peut. Excuse-nous. Non, mais c'est bon, on peut avoir un discours critique sur. Sur ses propos et sur. Non? Pourquoi l'avoir invité s'il avait rien de nouveau à dire? Est-ce que tu crois que Philippe Martinez, il avait des trucs nouveaux à nous dire sur le plateau? Non mais je cherche pas de la nouveauté tout le temps, hein. Je me suis demandé pourquoi tu posais la question sur le vouvoiement. Il me semble que tu vouvoies toujours les invités, même quand tu as travaillé avec toi à la ville. C'est plus compliqué que ça. Non, il y a des invités que je tutoie, mais je dis toujours en début d'émission pourquoi je les tutoie. Il y a une invitée, on ne savait pas comment faire. C'était Florie Marie, la présidente du Parti Pirate. Et on a décidé de se tutoyer en plateau parce qu'on n'avait pas réfléchi à la question. Comment elle s'appelle Mathilde Himmer de la primaire populaire, avec qui moi j'ai que j'ai connu, que je connaissais depuis des années, avec qui j'avais bossé, on était dans la même association et tout, donc j'avais commencé l'interview en disant que parce que je la connaissais, je la tutoyais. Donc voilà, ça dépend. Après, ouais, c'est vrai que je vous vois des politiques que par ailleurs, mais en fait, je tutoie pratiquement tous les politiques en dehors du plateau. Même Taubira? Non, j'ai pas réussi Taubira. C'est vrai que Taubira, ouais, pour le coup, Taubira, je l'ai pas tutoyé, ouais, c'est vrai. Et donc là, pourquoi le tutoiement du fait de son âge? Bah oui, c'est-à-dire que je me disais, en fait c'était une vraie question que je me posais, mais d'ailleurs je vous la pose, hein, c'est une question intéressante, j'ai toujours pas vraiment la réponse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution entre tutoyer et vouvoyer un jeune de 15 ans. Je trouve que vouvoyer un jeune de 15 ans, c'est apporter une distance surannée qui colle pas du tout avec la réalité du rapport qu'on peut avoir avec lui. Et le tutoyer en même temps, c'est gênant parce que ça peut être soit paternaliste, soit connivant. Et c'est un peu le risque que tu essayes d'éviter via le tutoiement. Moi, je veux pas ni. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je veux bien te tutoyer, mais je veux pas que ça apparaisse comme un paternalisme, genre je te prends de haut. Et je veux pas non plus que ça apparaisse comme une connivence, genre camarade, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça qu'on se tutoie, machin. Et donc, comme je n'avais pas la réponse, comme je ne savais pas si on se tutoyait ou si on se vouvoyait, j'ai préféré lui demander face caméra en disant bah, tiens, comme ça, les gens, ils verront bien que on sait pas comment faire. Le vouvoiement, ça crée une barrière. Ouais. Mais une barrière qui peut se justifier aussi, hein. Notamment autour à l'occasion d'une interview, c'est intéressant d'avoir une barrière. C'est pas. Entre l'intervieweur et l'interviewé, on ne peut pas se permettre d'avoir un rapprochement qui risque de montrer une complicité. Qui pourrait être dommageable au projet éditorial de l'interview. Donc, c'est. Voilà. Moi, j'ai toujours pas la réponse. Hein. Les barrières protègent. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Mais non, j'en parlais avec Bolchevik avant de monter sur le plateau. Donc, Bolchevik, le vidéaste qui était avec nous dans le public. Et il me disait, non, mais tu vas pas vouvoyer un gosse de 15 ans, mec, ça a pas de sens. Enfin, si tu. Ce sera ridicule. En plus, c'est Baxit. Enfin, je veux dire, c'est un environnement particulier, Baxit. Qu'est-ce que tu as pensé de l'interview d'Edouard Philippe sur BFM hier? Ah, je l'ai trouvé bien. Je trouve ça bien quand des personnalités connues, quel que soit leur cercle de connaissances, que ce soit le cinéma, la musique ou la politique, quand ils parlent de leur. Maladie. Je trouve que ça participe à la banalisation et ça lutte contre le culte du secret qui est très dommageable pour les malades. Voilà. T'as l'âge d'être son père, donc oui, tutoiement, c'est ok. Ouais, mais du coup, non, je suis pas satisfait du tutoiement par allégorie avec l'âge de son père, parce que son père a une relation de subordination avec lui. Ce qui est normal, c'est son père. Moi, je suis un intervieweur, tu vois. Effectivement, il y a une proximité sur Backseat. C'est sans doute ce que cherche une partie du public. Ouais, mais après, je trouve qu'on arrive aussi à faire des types d'interviews avec vouvoiement qui font tomber les barrières un peu classiques et surannées de ce qu'on peut trouver ailleurs. Faut commencer toujours par le vouvoiement et après on peut demander le tutoiement si tu sens que ça peut passer. Ça dépend du rapport de force. En politique, le tutoiement, ça a aussi sa fonction. Pour un mec comme moi, tutoyer un politique, c'est aussi une manière de lui dire tu m'impressionnes pas, donc essaye pas de m'embobiner, et on se dit les choses, clairement. Pas la peine de. Voilà, pas la peine de jouer un rôle et tout. Donc moi je tutoie cash assez rapidement les politiques pour bien leur faire comprendre que c'est pas parce que je suis pas directeur du service politique du journal Le Monde que que ça va changer quoi que ce soit. Le tutoiement, ça fait toujours penser à Carl Zéro. Alors, Carl Zéro, c'était un journaliste télé qui avait la particularité de tutoyer ses invités politiques, mais lui, c'était un style particulier. C'était très intéressant d'ailleurs, Carl Zéro, justement. Mais ça dénotait dans le paysage, c'est aussi pour ça qu'il le faisait. Tu tutoierais Emmanuel Macron? Ah non, pas de prime abord, non. Mais après, si la discussion devient plus franche. Oui, je pense. Tu peux pas dire ça, putain. Non mais tu déconnes. Enfin, moi je veux bien, je t'entends, hein, mais franchement, si tu me dis ça, c'est. Enfin, non, je sais pas. J'essaie de m'imaginer en train de parler de Macron. Et je pense qu'à un moment, ouais, il y a un tutoiement qui partirait parce qu'on se dit les choses, quoi. Merde, c'est. Enfin, ça va, y a pas de caméra là. Enfin, what the fuck. Le SNU obligatoire? Tu veux vraiment qu'il y ait tous les jeunes dans la rue? Genre, c'est un souhait de ta part? C'est quoi le. C'est quoi l'idée là? On est comment? Tu penses que beaucoup de politiques te prennent de haut? Non. Non. À partir du moment où il te tutoie, tu fais la même chose. Oui. Oui, non, mais. Enfin bref, non, mais donc du coup, ouais, indépendamment de la question du vouvoiement ou du tutoiement, avec Madès Nadel, c'était intéressant. On est resté un peu sur notre faim, sur des sujets où, ouais, il était très langue de bois, mais c'est pas grave. Enfin, il était dans son rôle, hein, autour des mobilisations climat, autour de le syndicalisme. Mais encore une fois, il ne faut pas. Nous, on n'avait pas d'attente particulièrement ouf. On ne s'attend pas à ce qu'un syndicaliste nous explique que le syndicalisme, c'est vieillissant, c'est un peu chiant et que les jeunes s'en détournent. Évidemment qu'il va nous dire non, non, au contraire, on est vachement nombreux, les jeunes nous rejoignent et tout. Mais c'est pas grave. On n'est pas dupes. On n'est pas nupes. Non, on n'est pas dupes. Le mythe des nouvelles formes de mobilisation. Non, c'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe, non. Et Astrid Panosian, tu l'as trouvé comment? Oh bah je l'ai trouvé majoritaire quoi. Je l'ai trouvé majoritaire et macroniste. Ça tombe bien. Elle est majoritaire et macroniste. Donc je m'attendais exactement à ça. Difficile de défendre une réforme aussi technique et complexe. Difficile de défendre une réforme qui provoque une opposition aussi franche. Donc je m'attendais pas à ce qu'elle soit allée sur le plateau. Mais c'est un petit peu ce que je vous ai dit à la fin de l'émission, c'est que être au pouvoir, c'est affronter cette difficulté-là. Et c'est très difficile. C'est quoi les prochains sujets que vous aimeriez aborder dans Backseat? Ça dépend de l'actu, c'est l'actu qui dicte. Tous les invités étaient dans leur rôle. Oui, et j'attends pas que les députés soient autre chose que dans leur rôle, que les invités soient autre chose que dans leur rôle. Et elle était dans son rôle. Donc une députée impliquée sur les sujets sociaux et grand âge, vieillesse, vieillissement grand âge, députée de la majorité sur un plateau à l'heure d'une réforme impopulaire. Et ça, je vous le dis, quel que soit votre camp politique, hein, quand vous êtes député de la majorité et que vous devez défendre une réforme impopulaire, vous bégayez sur tous les plateaux télé. Et tout le monde vous accuse, et c'est normal, de langue de bois, d'esquive, etc. C'est totalement normal. Je souhaite à tout le monde de se retrouver dans cette situation, comme je l'ai dit. C'est plus simple d'être opposant. C'est toujours beaucoup plus simple d'être opposant. Dans la rhétorique, dans l'argumentation, etc. Bon, après, l'inconvénient, c'est que t'as pas le pouvoir. Donc, t'es très impuissant quand t'es opposant. Mais oui, c'est plus simple d'être opposant que d'être majoritaire. Sur les plateaux. C'est ça que je veux dire. Parce que quand t'es majoritaire, tu es comptable de l'action. Donc, tu rends des comptes. Quand tu es opposant, bah, tu rends des comptes sur pas grand-chose. Quand tu es opposant, tu t'opposes. Tu crois? C'est moralement plus confortable d'être dans l'opposition. Moralement, je sais pas. Chacun fout sa morale là où il veut, donc je sais pas, mais non, c'est juste d'un point de vue de l'argumentation, c'est plus facile d'argumenter en défaveur de l'action du gouvernement qu'en sa faveur, quoi. Mais je vous invite à regarder les interviews des députés de gauche à la fin des gouvernements de gauche. Vous verrez comment ils bégayent sur tous les plateaux télé parce qu'ils doivent défendre des bilans qui ne sont pas toujours très reluisants. Hein. Chômage de masse, balance commerciale, taux d'imposition. Ils se font allumer la gueule sur les plateaux télé, ils expliquent qu'ils bégayent. Hein. Ils expliquent que c'est compliqué, vous savez, on a essayé de mener une réforme, machin et tout. Oui, parce que c'est. Bon, bah. Et là, c'est pareil. Après 6 ans de macronisme, ça commence à bégayer fort parce que c'est dur. Après la gauche PS. Eh ben regarde les interviews de, je sais pas, au hasard Jean-Luc Mélenchon quand il était encore au PS, tu verras. Tu vois ce que ça fait que de bégayer. Bah oui. Bah ouais, à la fin du mitterrandisme, c'était essoufflé, hein. Est-ce qu'il existe dans l'histoire un exemple de bon gouvernement? Ça dit quelque chose, les goûts et les couleurs? D'où le fait qu'il l'ait quitté. Ah bah oui. Enfin non, en l'occurrence non, parce que non, il l'a quitté en 2008. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il a fait carrière. Hein, je... Croyez pas que non. C'était pas chevènement non plus. Hein. Quand Jean-Luc Mélenchon était ministre. Ah bah quand Jean-Luc Mélenchon était ministre d'un gouvernement qui privatisait à tour de bras, ouais. Ouais, ça bégayait aussi dans les micros, ouais. Et... Un bon gouvernement au hasard, le Front Populaire. Ouais, pas à la fin. Enfin, question de point de vue. En ce moment, je regarde plein d'archives de l'Assemblée nationale sous la période Sarkozy. Tous ceux qui ont été depuis dans les gouvernements Hollande, ils parlaient comme la NUPES maintenant. Je pense que certains ici ne se rendent pas compte à quel point ils seraient déçus si la NUPES gagnait. Ah ça, oui, t'as parfaitement raison, François. Ah oui. Ah oui. Regardez. Ah tiens, c'est un exercice intéressant à faire ça. Regardez les prises de position des députés PS pendant le quinquennat Sarkozy à l'Assemblée. Les mêmes qui deviendront ministres sous Hollande. Et qui mèneront la politique que vous savez. Ouais, vous verrez, ça fait tout drôle. Effectivement, il parlait exactement comme la NUPES. Ouais. La réforme des retraites de 2003, ça c'était pas encore Sarkozy, mais. Mais ouais, bien sûr. Le bouclier fiscal. Ah oui. Les opposants parlaient comme des opposants, c'est pas étonnant en soi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que parfois je le dis en rigolant. Mais moi, ça m'aurait fait marrer que Jean-Luc Mélenchon devienne président de la République. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. En vrai, ça m'aurait amusé intellectuellement que Jean-Luc Mélenchon devienne président de la République en mai dernier, qu'ensuite il se plante aux élections législatives, qu'il se retrouve avec une majorité relative, qu'il soit obligé de composer avec son opposition, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec les ministres Panot, Quatennens. Et autres sur les plateaux télé en train de bégayer pour expliquer, pour essayer de justifier les décisions de leur gouvernement les plus impopulaires. Ça aurait été marrant. Enfin, et c'est ce qui arrivera le jour où ils arriveront au pouvoir, et c'est très bien. Enfin, dont acte. C'est ce que je leur souhaite, en tout cas. Ne trouvez-vous pas que le 49-3 antidémocratique? Oh, ce serait plutôt. Vous critiquiez beaucoup le 49-3 sous Hollande, pourquoi l'appliquez-vous désormais? Pourquoi vous bégayez? Et au même moment, t'aurais toute la droite dans l'opposition, tranquille, sur tous les plateaux télé, en train de leur en mettre plein la gueule. Ah bah ça c'est bien la gauche, ah bah voilà, ah bah bravo. Mais comme dans les années fric, hein, c'est exactement ça, les années fric, les années 80, 80-90, c'est toute la droite qui fanfaronnait en disant oh, les socialistes ont rien compris au fonctionnement du marché, c'est quand même pas compliqué, faut simplifier et tout. Ah ouais. La conclusion pour toi, c'est que toutes les gouvernements prennent des mauvaises décisions. Ou que la population n'accepte jamais les décisions nécessaires. Ah non, 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 c'est pas du tout ce que je dis, hein. C'est pas une question de bonne ou de mauvaise. Ça, c'est une appréciation personnelle, c'est populaire ou pas populaire, hein. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Bah, rappelez-vous le débat du siècle. Le débat du siècle qu'on avait fait pendant la présidentielle, où on avait interviewé avec Paloma Moritz, on avait interviewé Jean-Luc Mélenchon. On avait bien lu son programme sur le climat, etc. Et on lui a posé des questions sur un certain nombre de décisions qu'il avait l'intention de prendre s'il devenait président de la République, et notamment le recours massif aux éoliennes, aux hydroliennes, etc. machin. Il voulait en foutre partout et tout, très bien, pour justifier la fermeture des centrales nucléaires. Ok. Et nous, on lui a posé la question avec Paloma, monsieur Mélenchon, vous savez que les projets d'éoliennes provoquent des réticences sur le terrain, au niveau local, des habitants, des élus locaux qui ne souhaitent pas voir les projets d'éoliennes, etc. Il y a des manifestations, il y a des pétitions, il y a des recours en justice, beaucoup. Comment est-ce que vous gérez, une fois que vous serez président de la République, comment est-ce que vous avez l'intention de gérer la participation de la population à la prise de décision sur l'installation d'éoliennes? Il nous a répondu, bah on convaincra les gens. Paloma et moi, on s'était dit, ouais, c'est pas ouf comme réponse. Oh putain, tu la sens la manif là dans toutes les villes moyennes de France? Oula. Oh les gilets bleu fluo. Oula. J'ai pas entendu à cause de la pub. Il n'y a pas de pub, hein, la pub c'est dans votre tête. L'URSS a convaincu tout le monde, il n'y avait pas d'opposition. Oui, oui c'est vrai. Oui, après t'as la méthode soviétique. Ah ouais, alors bon, le problème c'est que la France, tout ça, la liberté, liberté de la presse, liberté de la caricature et tout, c'est très chiant. Hein. Les gens s'opposent. Ah ouais, les gens manifestent. Quand ils sont pas d'accord, ils manifestent, c'est chiant. Ouais, c'est assez pénible, ouais. Il va falloir faire avec. Convaincre comme ce qu'il dénonce en ce moment sur la réforme des retraites? Ben évidemment. C'est ça aussi être au gouvernement, hein, c'est faire de la pédagogie. Mais c'est ça, c'est expliquer les réformes. Donc si Jean-Luc Mélenchon était président de la République, on aurait tous les députés, tous les ministres insoumis qui se feraient la tournée des plateaux pour venir faire de la pédagogie des réformes. Mais dis donc, votre réforme là, elle est quand même très impopulaire. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas assez expliqué, donc je vais réexpliquer. C'est exactement ce que fait un député, un ministre insoumis. Mais c'est comme ça, enfin, très bien. La pédagogie, c'est tellement le mot le plus paternaliste du moment. Et ça fait 30-40 ans, hein, qu'il est utilisé matin, midi et soir. La pédagogie des réformes, ça date pas d'hier, hein. Ça s'appelle la conduite du changement à l'échelle d'un pays, v'là la galère. Ah bah ça. L'élection est finie, la mission accomplie. Oh là! Ah l'élection, c'est pas la fin du jeu, hein. C'est le début. C'est le début du mort hardcore, techniquement. Quand t'as gagné une élection, t'as fini le tuto. Et tu lances une nouvelle partie en mode hardcore. Hein. C'est ça, gagner une élection. C'est là que les choses sérieuses commencent. Pédagogie, c'est aussi une façon de dire on a raison et vous êtes trop bête pour comprendre quel que soit le camp. Non, enfin je non, ouais, si tu veux, enfin moi je non, pour moi pédagogie ça veut dire, enfin ça veut dire argumentaire de défense, d'explication. Voilà. Mais après je pensais à quoi? Attends. Pédagogie, de quoi on parlait? Non, après, effectivement, je peux comprendre que quand tu es au gouvernement, enfin, je veux dire, tu as aussi des métriques sur le niveau de compréhension du sujet et tu peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui ne comprennent pas tout. C'est très bien d'être en faveur ou opposé à la réforme des retraites, j'ai pas de problème avec ça. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont absolument infoutues d'expliquer comment fonctionne le système des retraites aujourd'hui. Parce que c'est pas facile, hein. Je suis en train de donner des leçons à personne, hein. Je suis pas en train de dire les gens sont cons, les gens font pas d'efforts, c'est très difficile. Moi-même, mon boulot consistant essentiellement à faire de la pédagogie, du fonctionnement des politiques, etc., je me rends bien compte que c'est pas évident. Donc, comment ça marche les retraites? Quels sont les problèmes du système de retraite actuel, qui en plus est un objet soumis à débat? Et qu'est-ce que le gouvernement propose de faire? C'est une interro en trois questions qui est pas facile. Donc, ça s'explique. Vu la complexité du système de retraite, c'est clair. Ouais, et encore une fois, vous me connaissez, je défends pas l'idée que ouais, mais tant que les gens sont trop cons, leur avis vaut rien. Non, vous avez le droit d'avoir un avis sur un sujet que vous ne maîtrisez pas totalement, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 5 en affaires sociales pour pouvoir avoir un avis construit et personnel et citoyen sur la réforme des retraites. C'est pas ce que je dis, hein. Mais tout ça pour dire que je comprends que le gouvernement dise bah faut faire la pédagogie de la réforme. Parce qu'ils essayent d'expliquer, sous-entendu d'argumenter, ce qui, selon eux, fait de leur réforme une bonne réforme. Mais c'est encore une fois selon eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de vérité absolue. Hein. En politique, il n'y en a pas beaucoup des vérités absolues. C'est une question de choix, de grille de lecture, de décision, de contexte, etc. La majorité emploie souvent la pédagogie de manière très paternaliste, ça explique les crispations sur le terme. Mais c'est exactement ce que faisait la gauche en 2000-2001. Hein. Enfin, vraiment, la pédagogie des 35 heures. C'était exactement. Moi, je me souviens, hein, alors j'étais petit, mais je me souviens des ministres de gauche qui défilaient à la télé pour faire la pédagogie des réformes Jospin. Et on leur mettait en face des gens qui n'étaient pas contents, des chefs d'entreprise, des artisans. Des directeurs d'hôpitaux, des médecins et tout. Ils disaient, votre réforme, elle est à chier. Non, c'est pas qu'elle est à chier, c'est que vous l'avez pas comprise. On va vous la réexpliquer. Ben voilà, c'est la pédagogie. C'est pas contre la majorité actuelle, c'est contre la majorité du moment. Ouais. Enfin bref, donc tout ça pour dire, moi, ce message, je vous l'ai déjà dit, selon moi, faut pas en vouloir au gouvernement d'essayer de faire de. Enfin, d'essayer de vous convaincre que sa politique est la bonne. Hein. Ils ont le droit d'essayer. Qu'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas, c'est un autre sujet. Mais bon, ils ont le droit d'essayer, bah allez-y. Faites votre pédagogie. Ça vous empêche pas, que ça remette pas en cause vos convictions. C'est leur travail en somme. Et c'est le travail de tout gouvernement en démocratie d'essayer de convaincre son opinion publique. Il y a des pays dans le monde où les gouvernements prennent pas la peine de faire de la pédagogie. Le problème, c'est pas qu'ils essaient de nous faire croire que leur réforme est bonne, le problème est de nous faire croire que c'est la seule possible. Selon eux! Encore une fois, selon eux. Ah, le gouvernement ne détient pas la vérité, hein. Le gouvernement détient une ligne politique. C'est pas du tout la même chose. gouvernement, il a ni raison ni tort, il a une ligne politique. Que vous pouvez partager ou pas. C'est aux oppositions de proposer mieux. C'est effectivement aux oppositions de proposer mieux, d'où l'intérêt des niches parlementaires, d'où l'intérêt des contre-propositions. Voilà. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'où l'intérêt pour les oppositions de présenter des programmes politiques, pour essayer de gagner les élections. Et d'où l'intérêt pour tout le monde de regarder, de lire les programmes et de les critiquer. Quand leur pédagogie, c'est du bourrage de crâne en 9 langues, je pense qu'il est l'heure de lancer des briques dans les vitres. Ça commence par la tienne. Personnellement, on a beau expliquer le polynôme de Tcherbychev, avec pédagogie, j'y comprends rien quand même. Oui. Les contre-propositions, elles sont crédibles et honnêtes, ou c'est surtout pour embêter le gouvernement, selon vous? Non, c'est pas pour embêter le gouvernement, au contraire, c'est pour essayer de séduire les électeurs potentiels. C'est que de la com! C'est très bien la com. Mais non, les contre-propositions, est-ce qu'elles sont crédibles et honnêtes? Encore une fois, il n'y a pas de valeur absolue. Ça dépend où vous mettez le curseur, de la justice, où vous mettez le curseur de l'efficacité, de la nécessité, etc. Et on peut avoir des opinions différentes sur ces sujets-là. Donc les contre-propositions, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont une autre ligne, une alternative à la ligne du gouvernement. Voilà. Propose une alternative en disant, bah nous, si on était au pouvoir, c'est ça qu'on ferait. Je trouve juste un problème à tout ça, c'est qu'on bâche trop le gouvernement sans chercher à comprendre pourquoi ils ont cette ligne. C'est pour ça que pour ma part, j'ai pas apprécié l'heure de Baxit que j'ai vue. C'est-à-dire, quelle heure t'as vue? Parce que ça a duré 3 heures quand même. Mais moi, non, moi j'essaie de vous expliquer pourquoi le gouvernement a sa ligne. Enfin, après, moi je bosse pas pour le gouvernement, je m'en fous. J'essaie de vous donner des éléments de compréhension pour que vous compreniez pourquoi le gouvernement prend ses réformes, de quelle manière, à quel moment. En relation avec quoi, etc. Et dans quel contexte? Parce qu'effectivement, une réforme des retraites, ça tombe pas du ciel. Et c'est pas fait pour le plaisir. Pour parler de cette réforme-là, mais il y en a plein d'autres des réformes. Et c'est justement, tiens, tu vois, la discussion qu'on a eue sur le plateau hier avec les chroniqueurs sur la loi immigration. C'est exactement pour ça qu'on fait Baxit, pour essayer de vous donner des billes, pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il y a une loi immigration qui sort de nulle part. Déjà, on prend le pouvoir et après, on te montrera qu'on sait gérer avec la France insoumise. Ah bah, tu viendras me l'expliquer sur le plateau et sans bégayer. Par contre, tu m'en voudras pas, je vais te poser des questions. Ça risque de picoter. En conclusion, c'était on fait la loi immigration plus pour la strate que pour l'efficacité, que pour sa réelle efficacité. C'est un peu l'analyse qu'en avait, c'est un peu l'analyse qu'en avait Malek, Claire aussi, moi aussi c'est vrai. C'est vrai que moi aussi, je trouvais que cette loi était bien opportune pour Gérald Darmanin et que pour l'instant, ce qu'elle proposait pour contrebalancer le caractère très droitier et sécuritaire du truc. N'était pas encore assez clair, ou alors peut-être qu'il n'était pas encore assez clair pour moi. Donc j'attends de voir un petit peu aussi ce que vont donner les débats, etc. Mais bon. Merci Tolisebra Bra qui offre un sub, merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Merci Mirashaim. Les gens qui pensent qu'il y a des gentils et des méchants, ou qu'il y a ceux qui ont la vérité et tous les autres mentent, ça me gonfle, c'est juste une histoire de valeur et de priorité. Oui, je suis pas loin d'être d'accord avec toi, après c'est normal, tout ne se vaut pas, et c'est... Enfin, c'est... J'en veux pas à quelqu'un de considérer qu'il détient plutôt la vérité que les autres. Bon, c'est peut-être un peu de mauvaise foi, mais c'est pas bien grave. Tout le monde a le sentiment d'avoir raison. C'est normal. Le timide élan de Hollande sur la simplification administrative continue en coulisses dans les administrations où c'est mort et enterré. Ah non, ça continue. Ça continue. Ma copine a un dossier de naturalisation en attente d'instruction depuis un an, c'est absurde. Bah tiens, tu vois justement la réforme de l'immigration qui a été proposée par Gérald Darmanin cette semaine, qui va être discutée en mars. C'est une réforme qui prévoit l'accélération des délais sur les dossiers de naturalisation et la simplification. Avec ses avantages et ses inconvénients. Regarde l'émission Backseat d'hier, tu verras Claire et Malek qui t'expliquent ça en partie. On aura l'occasion d'y revenir hein, sur la loi immigration dans Backseat, je pense. Après, si tu crois pas un minimum à tes idées, ça devient compliqué la vie. Ouais. Non, mais bien sûr, et c'est très bien d'avoir des convictions. Hein. Quand on vit dans un espace où tout le monde est d'accord avec soi, c'est assez normal. Alors, par ailleurs, oui. Oui, par ailleurs, il y a aussi le phénomène des bulles de filtre sur Internet, que vous connaissez bien, qui commence à être bien documenté, qui fait qu'à force de lire que des avis avec lesquels on est d'accord, on a l'impression d'avoir une opinion très largement plus partagée que la réalité. Classique. C'est bien d'avoir des convictions, c'est bien aussi de changer d'avis face aux preuves. Il n'y a rien d'humiliant à ça, bien au contraire. Oui, bien sûr. Ou de faire évoluer son opinion, ça a du sens, mais pas toujours. Enfin, je veux dire, c'est pas grave d'avoir une conviction et de la garder chevillée au corps toute sa vie, tu vois. Tu peux être convaincu que la peine de mort, c'est pas bien, à l'âge de 15 ans, et être toujours aussi convaincu à l'âge de 77 ans, tu vois. Bon, pas grave, hein. C'est pas... Et que les invités qui changent pas d'avis, et que les imbéciles changent pas d'avis, bah ça dépend sur quoi. Tu vois? Voilà. Connais-tu l'âge moyen des viewers de ta chaîne? Parce qu'il y a les convictions avant de payer des impôts et les convictions après, et souvent une légère distorsion proportionnelle au nombre d'années de cotisation. On dirait mon père. Tu comprendras quand tu paieras des impôts. C'est un peu méprisant ce que tu dis, tu trouves pas? Mais l'expérimentation, oui, de par soi-même fait partie effectivement des manières de se forger son opinion politique. Et je suis d'accord avec toi pour dire que l'expérience affine l'opinion. Mais très bien, tant mieux, c'est formidable. Ça peut te permettre de mettre de l'eau dans ton vin. Ça peut te permettre de changer d'avis. Ça peut aussi te renforcer sérieusement dans tes convictions. À l'expérience, tu peux sérieusement te radicaliser aussi. Tu vois, donc bon, ça va dans tous les sens, hein. Merci, Bad Clark Kent. Merci beaucoup pour ton resub. Beaucoup de jeunes sous-estiment fortement la vitesse à laquelle ils auront une somme à 5 chiffres prélevée sous forme de cotisations et taxes sur le fruit de leur travail annuel. Bah, peut-être aussi que beaucoup de jeunes n'y accordent pas autant d'importance que toi. Tu vois? C'est pas grave. Enfin, on regarde pas les choses de la même manière. Merci Panda Mamsan. Mais je te rassure, oui. Non, mais 5 chiffres, enfin, il a raison, hein, 5 chiffres. À part si vous êtes au SMIC, ouais. Et encore, si tu fais le calcul sur les cotisations, sur ton salaire, plus les taxes. Ouais, non, si, 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 tu peux arriver à plus de 10 000 balles à la fin de l'année, ouais. Tu peux. Par an, mais non, pas par mois, par an. Tout le monde a un salaire annuel à 5 chiffres. À peu près tout le monde a un revenu annuel à 5 chiffres, oui. Mais là, on parlait de niveau de taxation et de cotisation. Mais enfin, non, non, après, sur le moment, ça fait chier tout le monde de payer des impôts, hein. Je connais personne qui paye de gaieté de cœur. Bon. Après, il y a ceux qui en font une obsession de leur montant d'impôt. Et puis, il y a ceux qui sont pas tant obsédés par leur montant d'impôt que par la qualité des services publics. Tu vois, enfin, c'est question de point de vue, encore une fois, question de. Et encore, les gens réalisent pas la part de leur salaire qui part à l'État avant le brut. C'est-à-dire. Arrêtez, l'État, c'est nous. Il fait moins 42 degrés ressenti à Montréal. Ouais, il paraît qu'il fait super froid à Montréal. Hey, est-ce que vous voulez qu'on fasse du unboxing de petits chats? Parce que moi, j'envisage d'adopter un chat, un petit chat. Et du coup, j'ai acheté des trucs pour gérer le petit chat. Des gamelles, une litière, tout ça. Et du coup, j'ai reçu mes colis. Du coup, comme j'ai rien à foutre, là, enfin, on est tranquille, là, il est 22 h et tout. Je vous propose un unboxing de matos de petit chat. Long petit chat. Long petit chat. Alors attendez, 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 je vais chercher ça. Alors, c'est d'ailleurs déjà son nom, Lopotichat. J'ai ce qu'elle qui s'appellera Potichat. Bon, on verra. Je vais essayer de pas vous montrer mon adresse. Ouais, ce serait mieux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, vachement important. Griffoir. J'ai acheté des griffoirs. Parce que, comment dire, mon canapé tout neuf et mon fauteuil jaune tout neuf, je le sens mal. Je le sens mal. Je pense que ça va mal se passer. Inutile, ils s'en tapent. Ouais, je crois savoir que les chats n'ont globalement rien à foutre des griffoirs. Donc voilà. Attends, pourquoi il y a des. C'est de l'herbe à chat, ça? Il y a du gel de silica. Vous voulez manger tout de suite après avoir ouvert vos colis ou vous attendez le lendemain? Moi, en général, j'attends le lendemain pour les manger. Petit sachet de gel silica. Dans du lait, four en gratin. Ouais, c'est ça. Ah, toi, tu le mets dans le café? D'accord. Perso, c'est à l'apéro. Ah ouais, vous avez tous des trucs différents en tisane. D'accord. Avec la peau, par contre, je les donne aux voisins. Mets le chat dans du riz. Bref. Donc, je crois que c'est de l'herbe à chat, ça. Hein. Pourquoi il s'emmerderait à me piller ça? Comment ça marche cette merde? Ah, mais ils ont toute une gamme de produits absolument incroyable. On va pas commencer, hein. Ok, donc le griffoir. Bon, bah voilà quoi, je dis, on s'en branle, hein. C'est un griffoir, tout ce qu'il y a de plus. Et ça, du coup, je sais pas, je vais le mettre dedans ou pas? Hein, c'est transparent. Je sais pas à quoi ça sert cette merde. Pour attirer le chat, tu dois le mettre l'herbe à chat dessus. Mais c'est vraiment de l'herbe à chat ce truc-là? Ouais, ça y ressemble, ouais. On dirait des herbes aromatiques. Oui. Tu saupoudres dessus, ça attire le chat. D'accord. Ça sert à l'inciter à utiliser les griffoirs, tu saupoudres. Ok. Tu saupoudres dessus. Bon, eh ben écoutez, très bien. Je note. Donc voilà, donc j'ai deux griffoirs, je vais les foutre à deux endroits différents de l'appart. Et on va croiser très fort les doigts pour que le chat y comprenne que c'est là qu'il faut griffer. Merci French Geek, merci. Hop. Du coup, je vais mettre ça là. Ensuite, alors attends. Ah, je sais ce que c'est. C'est la fontaine à eau. Ça, c'est les jouets. Et ça, je sais pas ce que c'est. Alors, on verra après. Attends, je vais changer le titre. Je vais mettre Unboxing pour l'Opoticha. Garde bien les boîtes, ça amusera ton chat plus longtemps que les bricoles que t'as achetées à prix d'or. J'avoue. Ça, c'est la fontaine à eau. C'est la fontaine à eau. On m'a dit que c'était bien d'avoir de l'eau vive, de l'eau qui bouge. Les chats, ils aiment bien. Du coup, c'est la fontaine à eau électrique. C'est quoi cette histoire avec du soap? Je sais pas, je suis pas au courant, c'est quoi? Ça, c'est la garantie, on s'en branle. La petite fontaine pour l'eau petit chat. Incroyable. Très bien la fontaine à eau. Ouais, il paraît que c'est bien. Oh, puis les eaux stagnantes, c'est pas ouf pour les chats, ça prend la poussière et tout. Ça, on s'en branle de ce truc, on est d'accord. Oui. C'est la pub pour leurs produits de merde. Ok, on s'en branle. Du coup, la fontaine à eau, voilà, hein, le guide utilisateur, je pense que c'est pas compliqué que ça. Ok. Ça, c'est le filtre à eau. Bon. Voilà. Il y a un petit robinet, normalement, quelque part. Ouais, tout est à l'intérieur. Ok. Bon, je laisse ça dedans, on verra plus tard. Mais donc ça, c'est la fontaine à flotte. Voilà, fontaine à eau. Ça, c'est le filtre. Il y aura un petit robinet là qui sort là et qui balance de l'eau en continu. Pense à acheter un charbon ou filtre d'avance. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Tu as raison. Je crois que je dois en avoir un en rab là-dedans. Ouais. Et c'est sur un câble USB. Donc du coup, je vais pouvoir créer un robot qui fait que le chat n'a de l'eau que quand vous vous abonnez. Ouais, Les petits jouets. Je vais essayer des petits jouets. Les petits jouets. Ah, en plus, c'est livré avec le sachet, c'est bien ça. Les petits jouets pour les petits chats. Et ça, du coup, c'est quoi? Ah oui, non, faut juste que je le dénoue. Ouais, bon, on fera ça une autre fois. D'accord. Bon, voilà. Après, bon, c'est tous les trucs que tu laisses traîner sous les meubles. Les plumes, ça va tenir 15 minutes, crois-moi. Ouais, j'en suis à peu près sûr. J'en suis à peu près sûr. Ça vous donne envie de vous abonner ou pas? Tu t'abonnes? Tu t'abonnes à la chaîne? Tu t'abonnes à la chaîne? Allez, abonne-toi à la chaîne. Ok. Bon bah voilà, pareil, hein, c'est voilà, c'est que des trucs à laisser traîner sous les meubles. Mon chat s'est collé à l'écran quand tu l'as secoué le jouet. Pense à conserver les bouchons de bouteilles de vin bu durant les émissions, ça lui fera ses meilleurs jouets. Ouais, les bouchons de liège, ouais, carrément. Ok, bon bah très bien. Très bien, très bien. Ça, c'est les jouets pour le petit chat. Très bien, très bien. Ça dégage. Hop, je remets tout ça à l'intérieur. Hop, on referme le merdier. Donc voilà, donc ça c'est les jouets, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Il arrive quand? Je sais pas. Il faut encore que je prenne une décision. Il faut encore que je prenne une décision parce que le chat que j'envisage d'adopter, que j'ai rencontré la semaine dernière, c'est une chatte absolument magnifique. Elle est très belle et tout. En revanche, elle est malade. Elle est malade et elle doit prendre des médicaments tous les jours. Donc c'est quand même une responsabilité importante. Et c'est pas une décision que j'ai envie de prendre à la légère. Donc je réfléchis, je consulte, je m'organise avec des potes. Ah, c'est la gamelle. Hop. Merci pour ton abonnement, Cryogs. Petite gamelle. En céramique, du coup. Quand même mieux que du plastique. Pardon. Voilà. Modèle joli qui décorera la cuisine. J'ai fait ça avec un chat malade cardiaque. Il a vécu sa meilleure life jusqu'à ses 10 ans, aucun regret. Bah ouais, non, c'est pour ça, j'aimerais bien. Mais voilà, c'est que j'ai envie de. C'est une décision importante, quoi. On peut pas prendre à la légère la décision de prendre la responsabilité de voilà. Donc très bien la gamelle, tout à fait bien. Ensuite, ça du coup ça dégage. Voilà. Ensuite, hop. Je sais pas si tu l'as dit, mais quel âge a le petit chat que tu envisages d'adopter? 9 ans. 9 ans. C'est un petit chat senior qui est actuellement dans une famille d'accueil de l'association que j'ai contactée, que j'ai rencontrée du coup la semaine dernière. Il est magnifique ce chat, il est très très beau. Je pense qu'il se plaira à la maison. Et j'aimerais bien lui offrir de belles dernières années, quoi. Pour les vacances, il y a des applis où les gens passent la semaine chez toi et gardent tes chats, donc ils profitent d'être à l'étranger et payer moins cher. C'était pas angoissé. Ouais, je vais surtout essayer de trouver un deal avec un voisin dans mon immeuble. Je suis sûr que j'en trouverai, hein. Notamment parce que moi, c'est comme le chat prend des médicaments tous les jours, il faut vraiment que quelqu'un passe tous les jours. Enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un, quoi. Donc ça peut pas être tous les 2 jours, vas-y, c'est pas grave, je reviens demain et tout. Faut vraiment prendre les médicaments, quoi. Ah, c'est le bac à caca. Très important, ça, le bac à caca. Voilà. Le bac à caca. Est-ce que c'est pas un peu petit? C'est un chat qui fait 4 kilos. Litière ouverte. Ah! Ah, il faut vraiment faire une litière fermée? Oh. Ouais, large, c'est bon, ça passe pour 4 kilos. Litière ouverte, ça pue. C'est mieux ouverte. 4 kilos, 2 heures au four. Putain, t'es con. Ouverte, c'est mieux. Non, les chats adorent chier en public. Quoi? Prendre la bonne litière. Ça dépend des chats. La mienne, pas question d'avoir une litière fermée. Ah. Non, ouverte, c'est bien. Mais faut la vider, ça dépend des chats. Ah. Et qu'est-ce qu'on en pense des litières électriques qui coûtent hyper cher là et qui... Et qui change la litière toute seule. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que je suis quand même un peu geek hein, sur les bords. C'est de droite. Oui, mais ça, je m'en branle. Moi, pour mon chat, vous savez, je suis prêt à tout, hein. Je suis prêt à toutes les dépenses les plus folles. On s'en fout que ce soit droite. C'est non. Test pour savoir. La litière RGB. Terracid a dit que c'était bien. Terracid, il a ça? Un chat, c'est de droite par essence, en plus. Litière fermée, c'est mieux sur le ménage, pour le ménage. Bon, en tout cas, j'ai pris une litière comme ça parce que c'est la litière dans laquelle elle fait ses besoins actuellement, dans la famille d'accueil dans laquelle elle est. Donc, a priori, ça devrait lui convenir. Faut la bonne litière, sinon ça marche mal. D'accord. Jean, t'es pas sûr de prendre le chat, mais t'as déjà tout acheté. Ah, je suis pas sûr de prendre ce chat-là. Mais j'ai envie d'adopter un chat, ça c'est sûr. Ah, c'est le sac de transport. Bon, la litière à caca, le bac à caca. Hop. On met plus loin. La litière automatique, ça risque. C'est que ça fasse peur au chat, du coup il va pas s'en servir et faire ses besoins ailleurs, donc pas ouf. Ah, j'avoue. Tu mets 2000 balles dans une litière électrique et le chat il chie sur ton lit. Ça fait cher quand même. Si t'as un petit, ça fonctionne, mais si t'as un chat qui a une autre habitude, c'est pas ouf. Ouais, remarque, t'as raison. Ouais, c'est vrai, ça m'étonne pas. Truc de silica, là. Hop. Regardez, il y a un petit coussin tout doux. Même moi, j'ai envie de dormir dedans. Hop. panier de transport. J'ai la même, mon chat adore. Mais ouais, grave. Non, mais c'est trop bien. Puis le panier, je peux le sortir et... Enfin, non, mais c'est trop bien. Formidable. Ça sert à quoi, ça? Formidable, c'est très bien. Le transport du petit chat. Voilà. Et cette merde, c'est quoi? Oh, c'est une petite gamelle portable. C'est trop mignon. C'est une petite gamelle portable. Avec son petit mousqueton. Pour faire de l'escalade avec le chat. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, bah nickel. Par contre, il me semblait avoir commandé aussi une pelle à caca. Il me semblait avoir commandé une pelle à caca. Et une brosse. Merci Bilouane qui vient d'acheter un magnifique sweat et capuche. Merci Bilouane. Ça a été livré. Ah bah du coup, ça doit être chez le gardien. Ouais, la brosse et ça. Ouais, c'est les deux seuls trucs qui manquent. C'est la brosse et la pelle. Et ça doit être chez le gardien du coup. Ok. Ok. Et ben bah, nickel. Bon, bah je suis équipé. Il faut un panier. C'est quoi un panier? Arbre à chat? Non, j'ai pas d'arbre à chat. Après, c'est un chat qui a un problème au cœur. Donc, je vais pas acheter de laser pour jouer avec parce que ça peut faire monter vite le rythme cardiaque. Donc, vaut mieux éviter. Boîte de conserve ou croquettes? Croquettes. Arbre à chat, c'est overkill. Ça me paraît un peu overkill. Panier à dodo. Panier à dodo, ouais. Alors, bah, soit je prends le panier de... du sac, là. Un carton, c'est bien, ouais. Comment se fait-il qu'il ait besoin d'une nouvelle maison à 9 ans? Il a perdu son ancien maître. Ce que m'a dit l'association, c'est que c'est un chat qui leur a été confié par une famille qui a eu un bébé. Et quand le bébé est arrivé, visiblement, ça collait pas avec le chat. J'ai pas bien compris si c'était pour des raisons de santé. Parfois, il y a des nourrissons où c'est contre-indiqué qu'il y ait un chat à poil long qui habite avec eux. Et donc, l'association a recueilli le chat à cette occasion-là. Et depuis, ça fait un an que le chat attend dans une famille d'accueil. La race du chat, je sais pas. J'y connais rien en marque de chat. Y a des chats qui rejettent. Ouais, il y a des chats qui rejettent, ça peut être dangereux, ouais, faire gaffe. Les chats, c'est meilleur que les... c'est mieux que les bébés. Ouais, mais c'est plus sympa de faire des bébés que de faire des chats. J'arrive trop tard, j'ai pas vu le petit chat. Non, t'inquiète, t'as rien raté, le petit chat, il est pas là. Le petit chat, il est pas là. Fais attention si ton chat est à poil long, ça vomit souvent. T'as une photo? Non, je vous montrerai plus tard. Pour l'instant, je vous montrerai plus tard. Éventuellement quand le chat arrivera, s'il arrive. Donc je sais pas encore, faut que je prenne une décision. Faut que je me co-organise, faut que je m'organise avec mes voisins, avec mes potes, pour qu'ils passent éventuellement à la maison le jour où je peux pas être là. Après, moi je travaille à la maison, je suis là tous les jours. Je veux dire, mes absences de la maison, c'est rare. Un robot aspirateur pour les poils. Mais j'ai déjà le robot aspirateur, tu penses bien. Combien de cylindrées le chat, je sais pas. Et les vacances, oui, bah les vacances, bah tu t'organises. Pour les vacances, tu t'organises. Hein, comme tout le monde, ouais. Le petit chat. Tu trouveras facilement une gentille voisine pour venir le voir de toute façon. Ouais, en plus j'ai vu là bah, je me suis installé dans cet appartement ici en juillet dernier. Et visiblement sur mon palier, il y a une famille avec des ados. Et ça, typiquement, c'est le genre de truc que je peux demander à un ado, tu vois. Lui dire, bah voilà, j'ai besoin de pouvoir compter sur toi. Je t'envoie un texto pour te demander de passer à la maison tel jour. Et soit je te file du cash, enfin je m'organise avec ses parents, soit je te file du pognon, soit je t'offre des cadeaux, enfin voilà, pour te remercier, quoi. Donc, à mon avis, c'est le genre de truc. Enfin, moi, j'aurais été ado, j'aurais été content de le faire, tu vois. File les clés, vas-y. Les bonnes relations avec les voisins sont très importantes quand t'as un chat. Ouais, c'est sûr. Je te conseille de lui couper les griffes si tu veux sauver ton canapé. Ouais, je me doute. C'est pas tant la gamelle que les médocs quotidiens. Ouais, non, c'est pas. La gamelle automatique résoudra pas le problème. Non, moi j'ai besoin de lui filer des médocs. Donc, c'est un petit chat qui a besoin de prendre des médicaments tous les jours. C'est un mâle ou une femelle? Celle que j'ai remarqué, celle c'est une femelle. C'est une femelle. Si tu le récupères pas, il y a un backup pour ce chat. Bah pour l'instant, il est accueilli dans une famille d'accueil de l'association. Enfin, il n'y a personne d'autre qui veut l'adopter que moi. Hein. C'est un chat âgé et malade. C'est dur de trouver des gens. Donc voilà. Après, c'est quoi comme médoc si c'est à la pipette, c'est rien du tout. Tu fous dans la pâtée, ça passe tout seul. Oui, c'est ça. Non, c'est des médocs que tu mélanges à de la pâtée et ça passe tout seul, ouais. Quand tu coupes les griffes, fais attention aux veines. Ah oui, non, mais ça je suis habitué. Ouais, non, faut faire vachement attention à couper les griffes des chats, faut faire très attention. Ah non, c'est horrible de couper la veine, ça doit lui faire tellement mal. Il va beaucoup aimer la texture à l'arrière de ton siège, tu vas voir, putain, j'avoue. Le siège gamer en toile, l'autre siège qui est là, le canapé, le fauteuil. Ah moi je serais un chat, j'adorerais, hein. J'adorerais mon appart. En tant que chat, t'as des plantes en plastique là que tu peux mâchonner. T'as des bibelots à renverser sur l'ensemble des meubles. C'est parfait, le canapé, le fauteuil, les deux fauteuils gamer là, pour se faire les griffes. Il y a le lit. Vraiment parfait. Hein. Dernier conseil, bien voir combien de fois il doit prendre le médoc et si plusieurs fois par jour, quel est le délai entre deux prises. Car lorsque tu pars, il faut bien respecter les horaires. Alors normalement, c'est une prise par jour. Et c'est une prise par jour. Et c'est le soir, tu mélanges ces médocs dans de la pâtée et c'est terminé. Prépare des griffoirs au cas où si tu es maniaque sur les meubles. Ah bah j'ai. J'ai acheté des griffoirs. Toute façon, les chats ont un repas hors fixe, donc c'est pas compliqué à organiser. En l'occurrence, celle-là, elle se régule toute seule. Croquette à volonté. Croquette à volonté. Merci Flonflon. Merci Flonflon pour ton raid. Bonjour les flonflinois. On était en train de parler de ma future adoption d'un petit chat. Voilà. De type ronron. Voilà. Non, justement, un chat a pas besoin de repas à heure fixe, c'est comme ça que tu les engraisses. Ok. Est-ce qu'il pourra venir sur Backseat? Non, c'est un chat. Mais non, je te dis, c'est un chat fragile. C'est un petit chat malade. Il va rester à la maison tranquillement. Les chats doivent grignoter toute la journée. Pas des repas à heure fixe, ça ne correspond pas à leur comportement. T'as prévu des points en hauteur pour lui? Ouais, dans ma chambre, il y en a. Là, y a deux bureaux, hein. Y a deux bureaux. Il y a un canapé. Il y a les meubles derrière moi, là. Tranquille. Elle va regarder Backseat, ça fera un viewer de plus. Je dois filer, bonne fin de stream, Jean et le chat. Salut Flonflon, merci encore. Prévois des droits de rechange pour le lit. Ah ça, ouais. Ça, les chats qui font pipi sur le lit. La pâtée pour les médicaments, c'est à heure fixe. Oui, ça, la pâtée pour les médicaments, bah oui. Alors, je sais pas si c'est une heure pile poil ou si c'est en gros en soirée, quoi. À l'heure du dîner, comme on dit. Genre, si d'habitude je lui file à 23h et qu'un jour je rentre bourré à 1h30 du matin, est-ce que c'est grave? Et que je lui file à 1h30 du matin. T'as pas peur de la toxoplasmose quand ta compagne sera enceinte? Faudrait que déjà je me trouve une meuf. T'es marrant, toi. Non, c'est pas grave, mais faut essayer de rester régulier. Ah oui, non, mais attends, moi c'est exceptionnel que je me bourre la gueule. C'est très rare. Tu vas juste te faire engueuler en rentrant. Ah, ce sera bien fait pour moi. Pour les accidents, tu lui poses le derrière sur sa litière dès son arrivée le plus tôt possible avant qu'il ne repère d'autres endroits à son goût. Ok. Fais gaffe au budget, le dernier mois avec mon chat malade cardiaque, il m'a coûté 600 euros. Ouais, y a un budget qui existe déjà et on m'a déjà prévenu. Hein, on m'a déjà prévenu. Est-ce qu'il faut prendre une assurance pour petit chat? Ah, ça, je sais pas ça. Faut prendre une assurance pour le chat? Une assurance contre quoi? C'est incroyable, ce chat est rempli de veto. Ouais. Disons qu'il y a une compétence collective là sur le domaine des chats. Tout à fait impressionnante. Il y a des mutuelles. Adresse vétérinaire à côté. Ça, je sais, il y a un veto à côté, ça c'est cool. Il existe des mutuelles. Tu n'auras pas accès aux mutuelles. Bah non, elle est déjà malade. Hein. Donc. Non. Non, ça vaudra pas le coup. Hein. Assurance pour les bêtises du petit chat. Oh, au pire, elle lance un live quand je suis pas Une caméra ou GoPro pour le petit chat. Ah, je ferai comme les autres streamers, il y aura un plan, il y aura une caméra petit chat. Je sais pas où elle aura son panier, où elle passe du temps. Mais soit je lui aménage un panier là, derrière, sur le meuble, à la place des outils là qui servent à rien et tout machin. Soit je mets une caméra petit chat. Dans la plus grande tradition Twitch. Ronron TV, discussion sur l'efficacité des sièges de l'Assemblée pour se faire des griffes.
Ce sera un panier runaché. En vrai, c'est un peu drôle. On mettra une étiquette panier runaché sur le panier du chat. Attention au câble management sur le bureau. Ah, ça, ouais, putain. Ouais. Maintenant que tu le dis, un jour, il va falloir que je m'y fasse. T'inquiète, c'est pas toi qui va décider, c'est elle. Oui, ça c'est sûr. Va falloir gainer, ouais. Faut le brosser aussi. Ouais, j'ai acheté une brosse. Je l'ai pas encore reçue, mais j'ai acheté une brosse. Bon, alors, comment ça se passe sur Twitter? Est-ce que je me fais toujours insulter par tout le monde? J'ai fait 9000 retweets. Oh là là. Faut arrêter de me faire buzzer sur des conneries comme ça. Hein. 9000 retweets, j'ai fait combien? 1 million de vues. Voilà, il y a 1 million de personnes. 1 Français sur 60 a vu mon tweet. C'est le tweet où je parle de Édouard Philippe chez BFM en disant quand une personnalité politique parle de sa condition physique et participe à dédramatiser les soucis de santé des politiques, il faut le saluer. GG. Y a eu 9000 likes, 460 retweets, et en termes d'insultes, voilà quoi. Non, en l'occurrence, attends, c'est pas les réponses ça. Du coup, j'ai discuté un peu avec vous, François, machin. C'est incroyablement réconfortant d'entendre ces mots et tout. Ok, c'est super, merci du fond du cœur. En dehors de très nombreux désaccords politiques. Ok. Ah bah bravo Jean Massier, tu es devenu de droite, super, on va où maintenant? Je boycotte Baxit. Il y en a qui disent bravo à lui, il est certes incompétent, mais pas méchant pour autant. Bah vas-y, KGZR, n'hésite pas à lui donner des cours. Ça l'aidera à être plus compétent. Pompidou Mitterrand, Al Pacino, ici De Niro. D'accord. On s'en tape qu'il soit chauve ou qu'il ait pas de sourcils. Ce qui nous impose, c'est qu'il est ministre de Macron. Ce qui nous importe, c'est qu'il est ministre de Macron et que son positionnement politique est mortifère pour le bien commun. Lui, il regarde pas assez ma chaîne. Hein. Il est pas ministre de Macron. On n'oubliera jamais les dizaines d'yeux crevés, l'humanité que je perçois en l'écoutant est toute relative, d'accord. Au moment où on nous explique que le travail c'est mieux, que la retraite c'est cocasse. Je vois pas le rapport, mais admettons. C'est aussi pour rassurer ses futurs électeurs. Tout ça parce qu'il veut faire des horcruxes en tuant des acquis sociaux. Il parle bien ce monsieur. Bon, je vais pas tous les lire, hein. Il était. Ah, il était ministre. Ah, pardon. Ah, il a pris un tir gratos alors qu'il a raison. Effectivement. Il y avait un chat en dessous. Ouais, il y avait un petit chat. Petit chat. Donc bref, voilà. Twitter, quel enfer. Ah! Twitter, c'est une réunion de belles personnes. Mais pas au meilleur moment de la journée. Dimanche, je serai à Bordeaux, au Forum Libé. Je serai au Forum Libé. Toutoum, toutoum, toutoum. À Bordeaux, je participe à une table ronde sur le climat. Climat Libé Tour, ça s'appelle. C'est le Climat Libé Tour, donc c'est pas exactement le Forum Libé. Si vous êtes dans le Bordelais, c'est à l'université de Bordeaux, campus Victoire. Et moi, je participe à une table ronde à 11h30 dimanche. Programme, ça c'est programme de samedi. Et programme de dimanche à 11h30, s'informer sur le climat à l'heure du digital.
Alors, je vous rappelle que Libé, c'est quand même des personnes âgées, hein, donc ils disent encore le mot digital. C'est dans l'amphi Gintrack, c'est avec Jean Massier, qui est streamer politique sur Twitch et présentateur de l'émission Backseat. Et Juliette Lenrouilly, journaliste de Nouhou, le média positif de France Télévisions. Rencontre animée par Maud Benakcha, journaliste au service forum de Libé. Voilà. Fresque du climat. Tout ça, tout ça, tout ça. Bon, voilà. Après, il y a plein de gens, hein. C'est les forums Libé. Donc, si vous voulez viendre, voilà. Je serai à Bordeaux. Donc, ça, c'est dimanche. Et la semaine prochaine, on va avoir une belle semaine. Bah ouais, la semaine prochaine, c'est la discussion en séance publique de la réforme des retraites à l'Assemblée. Donc, on va streamer la réforme des retraites à l'Assemblée. Voilà. C'est quoi exactement une fresque climat? La fresque du climat, c'est une association qui crée un jeu pédagogique sur les changements climatiques. Oui, la pédagogie. Ça commence quand l'examen? Lundi. Lundi, lundi, lundi. Y a pas que les vieux qui disent digital. C'est quand même essentiellement des personnes âgées, hein. Lundi matin, ouais, je crois que c'est lundi, bah, à l'ouverture, ouais, lundi matin. Je vais regarder. Je vais regarder Assemblée nationale, lundi, projet de finances rectificative sur la sécurité sociale pour 2023. Donc ouais, c'est ça. Ah non, c'est 16h, c'est 16h, c'est lundi 16h. La discussion générale, c'est lundi 16h, ok. Heures du matin, ouais. 16h du matin. Et ensuite, le mardi, question au gouvernement. Tout ça, ils reprennent le débat, machin, machin. Donc voilà. Donc ça, c'est le programme du week-end. Et du début de semaine prochaine, je vous ferai une prog, de toute façon. Enfin, je vais essayer de vous faire une prog. Ça part en raid. Est-ce que vous préférez David Dufresne, qui est en train d'interviewer Hugo Bernalicis sur la réforme de la police judiciaire, ou est-ce que vous préférez Samuel Etienne, qui est en train de faire son émission L'Hebdo Etienne avec Étoile, Valérie Damidot et Thierry Moreau? Samuel ou Dave Duf? Attendez, on va faire un vote. On raid qui? Samuel ou Dave Duf? Hop, paf, vous votez. Vous cliquez, vous votez, vous me disiez. Faut que je tèche. Ah. Même les raids sont démocratiques ici. T'as vu comment c'est bien fait? Ah, j'ai écrit Dac Duf. Merde, pardon. Ok. Dave Duf ou Samuel? Samuel a déjà beaucoup de viewers. Oui, bon, c'est pas pour lui rendre service. Moi, c'est pour vous, hein. Moi, les raids, je les fais pas pour aider le streamer que je raid, hein. Je les fais pour vous. Je les fais pour vous offrir une suite de stream agréable. Parce que c'est pour vous que je travaille. Vous êtes mes patrons adorés. J'aime ma boîte. Abonnez-vous. Merci pour vos dons à Backseat. Merci pour votre soutien à Backseat. Merci d'avoir débriefé l'émission avec moi. Voilà. Allez, c'est parti. Ça part chez Dave Duf. Alors attends, comment il écrit exactement? Oui, c'est bien ça, c'est Dave Duf. On doit donner des tickets des restos du coup. Ah bah quand même. Merci pour vos dons, merci les amis pour vos abonnements. Passez un bon week-end. Peut-être que je ferai un stream demain, Flight Simulator. On verra si vous êtes sages. Allez, des bisous, bonne soirée chez Dave Duf. À très bientôt. Salut, bye bye.